Vous êtes sur RTL. (Rire) 12h30, 13h30.
Le journal inattendu d'Yvan Attal
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal inattendu. À mes côtés aujourd'hui, un artiste qui a commencé comme acteur et se construit une belle filmographie au gré de ses réalisations. Il est venu nous parler de la dernière en date, Un coup de dé. Bonjour Yvan Attal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci.
S'appeler Attal en ce moment.
Oui.
Vous assumez?
Écoutez, je suis au micro là, mais alors devant, il faut que les gens sachent, devant les micros, il y a des ordinateurs et je vois là, Attal se lance dans un grand débat. J'ai eu peur. Je me suis dit, merde, quel débat je dois faire? Je suis pas au courant. Puis je viens de réaliser qu'effectivement, on doit parler du Premier ministre.
Alors,
j'ai l'impression qu'il faut que je me prépare à cette nouvelle vie.
Et oui.
De pseudo.
Une double identité. Voilà. Décidément, les Attal sont au cœur de l'actualité. Tout de suite, les infos que je vous invite à commenter avec moi. Dans l'actualité de ce samedi, la très désagréable nuit de 700 naufragés du train Paris-Clermont-Ferrand. Ils sont restés bloqués sur les voies pendant 7 heures par un froid glacial, sans électricité et sans information. Témoignage dans ce journal. La grogne des agriculteurs qui inquiète l'exécutif. Le ministre concerné Marc Fesneau se rend dans le Cher, tandis que le RN monte aussi au créneau. Jordan Bardella est sur le terrain en Gironde. Nous serons en direct d'un barrage près de Toulouse. La colère aussi des associations de protection de l'environnement et des ostréiculteurs qui manifestent pour que les eaux du bassin d'Arcachon ne soient plus souillées. Le sport, et notamment l'exploit du jeune français Arthur Cazaux, 122e mondial, est qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie de tennis. Et puis la météo avec Valérie Quintin.
Oui, un vrai temps d'hiver quasi parfait, un ciel très lumineux sur une grande partie du pays, peut-être un voile nuageux un petit peu plus dense, un petit peu plus épais entre les Hauts-de-France, les Ardennes, le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne, mais vraiment rien de sérieux. Au pire, on aura aussi 2-3 nuages entre le Var et la Corse, avec un vent de nord assez sensible, d'ailleurs dans le sud-est, qui soufflera jusqu'à 80 km/h en pointe. Reste que les températures iront de 1 à 14 degrés entre Belfort et Ajaccio, 2 degrés à Lille, 3 degrés à Paris et Chambéry, 5 pour Bordeaux et Grenoble, 9 degrés à Cherbourg et à Nîmes et 13 degrés à Antibes.
Merci Valérie Quintin.
Le journal inattendu sur RTL.
Mais quelle nuit pour les 700 passagers du train Paris-Clermont-Ferrand restés bloqués sur les rails en raison d'une panne de locomotive. Ils sont finalement bien arrivés à destination ce matin, mais avec plus de 7 heures de retard, 7 heures passées dans les wagons sans eau, sans électricité, sans chauffage par ce grand froid et sans réelle information sur la situation. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
On peut parler de voyage cauchemardesque.
Au milieu des voies, dans un intercité plongé dans le noir, le conducteur qui peine à confirmer aux passagers que la locomotive envoyée pour les secourir prend elle aussi du retard. Un enfer, c'est comme ça que le résume William, l'un des passagers.
On avait l'impression d'être dans une scène de guerre, on devait être secouru de toute urgence. Alors ça a duré tellement longtemps, tellement inconfortable que c'est marquant quoi. Quand je mettais ma main sur le radiateur, c'était limite si j'avais l'impression que ça diffusait pas du froid, tellement c'était difficile à encaisser. J'avais des espèces de micro-siestes de 10 minutes et je me réveillais tellement c'était inconfortable quoi. Je me souviens avoir vu autour de moi des personnes âgées, des jeunes enfants ou des adolescents qui voyageaient seuls. C'est juste, mais c'est incroyable quoi.
La locomotive de secours finit par ramener le Paris-Clermont en arrière, en gare de Montargis où la Croix-Rouge distribue des couvertures de survie, des coffrets repas sont donnés au compte-goutte à l'immense file d'attente qui se forme dans le train qui reprend sa route vers Clermont à 3h30 du matin, plus de 8 heures après son départ de Paris. La SNCF précise aujourd'hui que les passagers vont pouvoir bénéficier d'un remboursement de 200% du prix du billet, mesure insuffisante pour William et tous les passagers avec qui j'ai discuté.
La prochaine fois, ils ont qu'à installer un service de qualité sur la ligne Paris-Clermont, parce que là, c'est juste scandaleux qu'il y ait une locomotive qui tombe en panne en plein milieu et qu'il n'y ait aucune réponse satisfaisante qui soit proposée après 5 heures de panne, en plein milieu de l'hiver. C'est 200% de remboursement du prix du billet. J'ai l'impression que là, en fait, la SNCF veut acheter un peu notre silence.
Les problèmes sur cette ligne sont récurrents. C'est comme ça que cet étudiant conclut avant de m'expliquer qu'il doit la reprendre dans les prochains jours. Il est en train de chercher un covoiturage.
Merci Vincent Serrano pour ces informations. La grogne monte chez les agriculteurs. Depuis plusieurs jours, les signes du ras-le-bol se multiplient. Plusieurs rassemblements dans l'Ouest jeudi. Des barrages routiers en Occitanie hier, avec même une explosion à Carcassonne contre un bâtiment public en travaux. Et puis aujourd'hui encore, des blocages, notamment sur la 64 près de Toulouse, où se trouve notre correspondant. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour.
L'inflation, les lourdeurs administratives, les normes européennes, autant de motifs de colère chez les agriculteurs que vous avez rencontrés. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très remontés.
Ah oui, très déterminés et prêts à tenir plusieurs semaines s'il le faut. L'autoroute a des allures d'un camping sauvage avec de quoi se réchauffer, se restaurer et dormir dans des bennes posées au milieu des tracteurs. Jérémy Rockbert est éleveur et céréalier.
On ne lâchera pas, on va tenir bon. Plus ça va, plus l'agriculture est en difficulté. On nous surtaxe de partout, on ne s'en sort plus.
Et vous avez dormi sur l'autoroute à 64?
C'est ça. Il a fait un petit peu froid, mais on y arrive. On s'en sort, on est motivé.
Et le blocage se poursuit donc pour le troisième jour consécutif et pas sûr que la situation soit résolue cet après-midi, malgré la rencontre prévue à Toulouse avec le préfet de région.
C'est une réunion de travail. J'espère que les gens auront un dialogue. Ça sera la première avancée. Il ne sera rien dit cet après-midi. Nous, ça ne sera pas des paroles qui nous feront partir d'ici. Ça sera la venue du Premier ministre avec des annonces concrètes et des papiers signés devant moi. S'il faut qu'on signe sur le plateau d'une remorque, on fera sur le plateau d'une remorque. Mais on signera un papier symbolique ici.
Vous l'entendez, le discours de la base et de l'un des porte-parole ici sur l'autoroute, Jérôme Bail, est un discours de fermeté de nature à penser que le blocage pourrait se poursuivre ce soir.
Merci Patrick Hisson en direct de Toulouse. Emmanuel Macron prend ce conflit très au sérieux. Il craint qu'il ne fasse tache d'huile, un peu à la manière des gilets jaunes. Il a demandé, vous l'avez compris, au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs. Le ministre concerné, Marc Fesneau, est lui-même attendu dans une ferme du Cher cet après-midi. Marc Fesneau qui est l'invité du Grand Jury demain sur RTL à midi. Mais l'exécutif n'est pas le seul à se mobiliser. Le Rassemblement national aussi s'empare du sujet. La tête de liste RN aux européennes de juin prochain, Jordan Bardella, sera dans le Médoc aujourd'hui. Yvan Attal, ce type de conflit, là, des agriculteurs qui pourraient faire tache d'huile, vous n'avez rien à dire ?
Oh, j'ai sûrement beaucoup de choses à dire, bien sûr. Mais là, non, pas grand-chose.
Vous observez le...
Je vous écoute. je suis attentif à tout ce qui se passe. Je trouve ça terrible, tous ces problèmes de partout.
Je comprends qu'il n'est pas forcément facile de se positionner sur ce conflit des agriculteurs qui pourraient faire tache d'huile.
Pardon, allez-y.
Non, je vous laisse. Je vais parler maintenant du Premier ministre, Gabriel Attal, qui est lui aussi sur le terrain, dans le Rhône. Cet après-midi, il doit échanger avec 150 personnes, des habitants, des maires du département, pour comprendre leurs préoccupations. Il souhaite associer les Français à la préparation de sa déclaration de politique générale devant le Parlement, qui aura lieu le 30 juin prochain. Un autre ministre, une autre ministre en une du point, Rachida Dati, qui est en photo. Avec cette légende, le roi s'amuse, à quoi joue Macron ? C'est ce que se demande le point, la réponse, dans l'hebdomadaire. La vente des huîtres du bassin d'Arcachon est de nouveau autorisée depuis hier. Elle était interdite depuis le 27 décembre, avec de nombreux cas de gastro-entérite. Un retour à la normale qui ne fait pas oublier le cœur du problème, la contamination des eaux par le norovirus. Ce matin, ostréiculteurs, associations de protection de l'environnement et citoyens se sont retrouvés à Audenge pour une manifestation baptisée « Stop pollution ». Un mot d'ordre, on ne peut plus clair, Philippe de Maria.
Oui, bonjour Nathalie. Effectivement, les participants tapent des mains, vous l'entendez derrière moi, pour se réchauffer devant la mairie d'Audenge. Je suis avec Clarisse. Bonjour Clarisse, motivée pour protéger les eaux, c'est ça, du bassin d'Arcachon?
Oui, bonjour, moi je suis Clarisse de Le Bétail Plage Boisée à sauvegarder. Il y a une trop forte pression anthropique, une urbanisation démesurée, sans étude de l'état des tuyaux d'assainissement. On voit nos égouts qui se déversent dans le bassin. On sait très bien pourquoi les huîtres sont interdites de consommation.
Ouais, c'est bien le problème. Merci Clarisse. Trois associations ont porté plainte. Une enquête est ouverte par le parquet de Bordeaux pour pollution et écocide. Ce matin, le président de la CEBA, l'une de ces associations, Jacques Storelli, nous annonce qu'il vient d'envoyer un courrier au préfet pour demander de suspendre l'attribution des permis de construire autour du bassin. Trop de monde, le système du traitement des eaux est sous-dimensionné.
Il est irresponsable de vouloir programmer 35 000 logements à 15 ans. Il faut faire une pause, essayer de recaler ces questions d'eau usée, d'assainissement, d'eau pluviale, de pollution de l'eau en général, pour ensuite programmer éventuellement une augmentation du nombre de logements.
Et vous le disiez Nathalie, les huîtres du bassin sont autorisées à nouveau à la vente depuis 24 heures, puisque les analyses sont bonnes, selon la préfecture.
Merci Philippe de Maria. Dans un instant, un rassemblement d'hommage à l'adolescent de 14 ans tué dans une rixe à Saint-Denis cette semaine. Restez avec nous, c'est le journal inattendu.
Le journal inattendu.
Yvon Attal, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Yvon Attal et Nathalie Renaud.
Dans l'actualité, au Proche-Orient, une frappe israélienne a visé un bâtiment à Damas, en Syrie. 4 Iraniens sont morts, dont 2 hauts responsables du corps des gardiens iraniens, l'armée idéologique de l'Iran. Par ailleurs, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan dans la bande de Gaza. Il se porterait à 24 900 morts depuis le début du conflit. Un mot du conflit au Proche-Orient, Yvon Attal ?
Alors là, pardonnez-moi, je voudrais juste vous dire une chose. Tout à l'heure, quand vous m'avez interrogé, j'étais pas du tout avec vous. Maintenant, dans les studios radio, il y a des télés. Alors, on regarde votre esprit hier. Alors, j'étais incapable de répondre à votre question parce que j'écoutais pas.
J'ai bien compris, je vous ai suivi.
Alors là, j'écoutais, en revanche. Et puis aussi, ce conflit, non, j'ai pas qu'un mot. J'en ai 8000 à dire.
J'imagine
quand j'entends
bien.
le ministre de la Santé du Hamas, ça me fait bien rigoler déjà. Il sait compter, il sort d'où. Ils ont des ministères de la Santé. Le Hamas, des gens qui commettent des pogroms. Ils ont un ministre de la Santé. Il faisait quoi le 7 octobre ? Alors, en plus, les civils à Gaza, tout le monde le sait, c'est des gens... Il y a énormément de gens qui se battent chez les civils. Donc, quand on annonce ce genre de chiffres, je trouve que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Voilà.
C'est pour ça d'ailleurs.
Là, je me suis réveillé, vous voyez.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on source et qu'on cite bien sûr le ministère de la Santé du Hamas.
Mais déjà, ça, c'est rigolo. C'est déjà un énoncé très, très, très... Il faudrait faire une comédie sur le ministre de la Santé du Hamas.
Pourquoi pas. Allez, on va revenir en France avec un rassemblement d'hommage à l'adolescent tué mercredi d'un coup de couteau sur le quai du métro Basilique de Saint-Denis. Sedan n'avait que 14 ans. Il est la victime d'une nouvelle rixe dans la ville qui connaît une recrudescence de violence. 10 rixes en 10 jours. Ce matin, son frère a pris la parole pour appeler à l'apaisement. Pierre Bazin, vous êtes sur place. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors dans la foule recueillie, vous avez aussi rencontré de nombreux parents inquiets pour leurs enfants.
Oui, devant le parvis, certains ont la tête baissée, la mine résignée. Dans sa main, un mouchoir pour sécher ses larmes. Cette maman est inquiète par cette violence permanente.
C'est très triste pour nous et pour tous les enfants de Saint-Denis. Il manque de sécurité, c'est tout. Il faut renforcer la sécurité, c'est tout. La sécurité, c'est qui ? La sécurité, c'est les policiers. Je suis maman et je suis mamie. Donc ça fait mal, ça fait très 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 mal. De 13 ans, 14 ans, et il le tue comme ça dans le métro. S'il n'y a pas de sécurité, on est abandonné.
Hier, une vingtaine d'interpellations ont encore eu lieu à Saint-Denis pour des faits de violence. Devant 500 personnes, le grand frère de Sedan a pris la parole pour notamment s'adresser aux dizaines de collégiens présents devant lui.
Deux jours avant, on s'est parlé, lui et moi. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Il me dit non, moi j'aime pas trop l'école. Je dis mais t'es obligé, tu vas y aller. Ok, on est des enfants du quartier, mais on n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à mourir. Vos parents se lèvent à 6 heures pour vous rendre heureux. Donc là, je demande à tout le monde, à tous ses amis, pas de violence, pas au nom de ses dents.
Les amis de Sedan baissent la tête, la main de l'un sur l'épaule de l'autre. Je vous appelle à respecter vos parents, à ne pas faire la bagarre parce que ça se termine mal, conclut Maury, entouré de sa famille en pleurs.
Merci Pierre Bazin, en direct de Saint-Denis où avait lieu ce rassemblement d'hommage à Sedan, adolescent de 14 ans, tué dans une rixe cette semaine. Une grosse actualité sportive aujourd'hui avec d'abord la Coupe de France. Premier qualifié pour les huitièmes de finale, l'OL. Les Lyonnais ont battu Bergerac, club de National 2, 2-1 hier soir. 7 matchs aujourd'hui et notamment Orléans-PSG à 20h45. Sacré challenge pour le club de National opposé au leader de la Ligue 1. Yvon Attal, le football, le sport, vous suivez ?
Pas tellement, non. Désolé.
Et le sport, vous en faites ?
J'en fais, oui, je joue au tennis.
Ah d'accord, donc vous pratiquez, mais vous ne suivez pas forcément.
Ah, le tennis, je suis un peu plus que...
Ah non,
on va y venir.
Mais, okay. Mais d'abord, il y a du rugby, la Champions Cup. 4 clubs engagés aujourd'hui. Bordeaux-Bègles se déplace chez les Blue Bulls en Afrique du Sud pour le dernier match de poule. C'est à 14h. À 16h15, Racing 92 face à Cardiff. À 18h30, le Stade français face aux Stormers du Cap. Et puis enfin, Saracens-Lyon. À 21h. Au programme aussi du handball cet après-midi. Deuxième match du tour principal de l'Euro pour les Français. Après leur victoire face à la Croatie jeudi, les Bleus tenteront de conserver la première place de leur groupe face à l'Islande à 15h30. L'Open d'Australie de tennis, ah. Yvan Attal, et le jeune Arthur Cazaux qui continue de briller. Après avoir éliminé le 8e mondial, Holger Rune, il a sèchement battu le Néerlandais Talon Griespoor en 3-7. Il se qualifie pour les 8e de finale. C'est une première dans un tournoi du Grand Chelem pour ce jeune Français de 21 ans, 122e mondial. Vous avez suivi Arthur Cazaux?
Alors ça, non, mais je suis très très heureux d'apprendre ça. On l'attend le prochain champion français, on l'attend avec impatience. C'est peut-être lui.
Mais oui, c'est peut-être lui. Et puis, il y a des bonnes nouvelles aussi chez les femmes, puisque la Française Océane Dodin est qualifiée, elle aussi, pour les huitièmes, après avoir battu sa compatriote Clara Burel. Un mot du challenge pièce jaune. Vous savez que RTL a lancé un grand concours pour savoir qui sont les habitants les plus généreux entre quatre villes qui ont été choisies, Lens, Montpellier, Nancy et Brest. Et pour l'instant, eh bien, c'est Lens qui est la plus généreuse, avec hier soir plus de 100 kilos de pièces récoltées, en tête devant Montpellier, Brest et Nancy. Mais vous pouvez, chers auditeurs, encore inverser la tendance. Dans ces quatre villes, vous pouvez apporter vos pièces jaunes jusqu'à mercredi 24 janvier, notamment à La Poste. Le nom du vainqueur sera annoncé vendredi prochain en présence de Brigitte Macron.
Le journal inattendu d'Yvan Attal
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Yvan Attal, c'est l'heure de votre portrait. Si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur dirais que le cinéma coule dans vos veines. Cette passion-là, elle remonte à l'enfance, quand vous passiez vos après-midi dans les salles obscures, pendant que vos parents, juifs séparades, arrivés en France après la guerre d'Algérie, travaillaient. La suite est logique. Cours Florent et des débuts remarqués dans un film, Un monde sans pitié d'Éric Rochant, qui vous vaut un César du meilleur espoir en 1990.
César est attribué à Yvan Attal dans Un monde sans pitié.
Bah c'est génial, c'était déjà génial de faire le film, en plus d'avoir un César, c'est super, merci beaucoup.
C'est génial et ça continue de l'être avec Éric Rochant, puisqu'il continue de vous faire tourner dans Les Patriotes, mais avant cela dans Aux yeux du monde, film capital, plus encore dans votre vie d'homme que dans votre carrière, puisque vous y rencontrez la femme, votre amoureuse depuis plus de 30 ans, Charlotte Gainsbourg. Couple à la ville comme à l'écran, elle vous inspire. Vous êtes à l'étroit dans votre costume d'acteur, alors vous réalisez et vous la mettez en scène dans des films qu'on pourrait croire autobiographiques, à commencer par Ma femme est une actrice.
J'ai pas couché avec lui. Putain, il y a que ça qui t'intéresse?
Non, il y a la botanique aussi. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est ça qui m'intéresse.
Il y a juste le fait que tout le monde puisse avoir à poil.
Non, ça me fait pêcher.
Déjà, hier soir, moi, dans la salle, j'avais la trique. T'imagines l'acteur, la gaule qu'il devait avoir?
Ensemble, on vous a croisé aussi dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Trois, précisément, vous concernant dans la vraie vie. Trois enfants, 9 films. Le 9e est un thriller, un genre que vous n'aviez pas encore exploré. Un coup de dé avec Guillaume Canet, joli coup de maître d'un amoureux du 7e art qui en est aujourd'hui un acteur de premier plan. Faudrait-il ajouter des choses à ce portrait?
Ben, en gros, il raconte un peu, il retrace un peu le parcours, non? Je ne sais pas ce qu'il faudrait rajouter, c'est pas, je ne saurais pas parler de moi-même de toute façon.
Le thriller, c'était un genre qui vous titillait, que
oui,
vous aviez envie d'aborder?
J'adore ça, quand je vais au cinéma, j'adore être surpris, être tenu en haleine, etc. Donc j'avais fait des comédies jusque-là, ou des films un peu plus, je ne sais pas, mais le genre comme ça, le vrai film de genre, je n'avais jamais fait. Et j'avais envie de m'y frotter, ouais. C'était... Quand on aime le cinéma, on a envie de toute façon de s'attaquer à tous les genres.
Et bien justement, ce thriller, Un coup de dé, on va en parler dans un instant dans votre journal inattendu, Yvan Attal. Restez avec nous.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu d'Yvan Attal.
Avec Nathalie Renaud sur RTL.
Votre actualité, Yvan Attal, c'est donc votre 9e film en tant que réalisateur. Un coup de dé, vous y jouez également, aux côtés de Guillaume Canet, notamment. Alors, je vais faire le pitch rapidement, même si je ne sais pas trop jusqu'où aller, parce qu'il faut garder le suspense pour le public. C'est l'histoire de deux amis qui sont liés par un drame, une agression que votre personnage subit au début du film, et dont votre ami vous sauve. Lui, il est brillant, il est fantasque, il est inventif. Vous, vous êtes le raisonnable, l'organisé, son ombre en quelque sorte. Mais cette amitié est-elle saine? On écoute la bande-annonce.
Je redéroule le fil. Encore et encore.
en arriver là.
Delphine passe pour une conne et toi tu dis rien. Tu cautionnes en fait.
Vincent c'est mon ami depuis toujours, il nous a sauvé la vie.
Tu t'approches encore une fois de mon mari, je te crève les deux yeux. J'y crois pas une seule seconde, Delphine est incapable de ça.
À qui t'as parlé?
Voilà, deux amis séparés par une histoire d'adultère avec au bout du compte un drame, un mort. Je ne vais pas aller plus loin.
En fait, c'est l'histoire d'un type qui doit tout à son ami et qui va le trahir malgré tout. Voilà, on va le dire. Voilà, je vais faire aussi simple et elliptique que vous. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, il y a une morte.
Il y a une morte. Bon, allez, on va le dire.
Qui l'a tué? Comment? Pourquoi? Etc. Bon, mais c'est toujours très difficile de parler d'un film sans révéler ce que le spectateur ne doit pas savoir avant de rentrer dans la salle. Alors, on ne sait jamais comment faire.
Effectivement. Alors, ce dont on peut parler, sans rien révéler du contenu du film, c'est qu'il parle de l'amitié, mais aussi de l'admiration, et peut-être même d'une sorte de vie par procuration, parce que l'un se projette dans l'autre.
Oui, dans un couple d'amoureux ou amical, est-ce qu'on est vraiment à égalité? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un... Est-ce qu'on est vraiment qui on est? Est-ce qu'on assume d'être soi-même? Est-ce que aussi on est ce que les gens pensent que vous êtes? Ça veut dire que, en tout cas, ce personnage que je joue, qui a l'air tout à fait
rangé,
raisonnable, fidèle, le grand Mathieu, comme on l'appelle, irréprochable, etc. Est-ce qu'il est aussi irréprochable que ça? Est-ce qu'on est aussi héroïque qu'on aimerait l'être? Au départ, j'avais envie de faire un film vraiment, vraiment là-dessus, sur quelqu'un qui n'est pas du tout celui qu'il croit être. Et puis je me suis laissé avoir pendant l'écriture au thriller, quoi. Je me suis laissé avoir par ça. Mais le sujet, c'était plutôt celui-là.
Ce sont aussi deux hommes qui sont, on va dire, au sommet de leur vie, à l'âge de la maturité, de la pleine puissance, juste avant le déclin, je dirais. Est-ce que ça compte aussi que les choses arrivent à ce moment-là?
C'est peut-être pas un hasard qu'elles arrivent à ce moment-là. Peut-être que... Alors voilà, puisqu'il est question de hasard, est-ce qu'il y a des hasards? Est-ce que toutes ces choses qui arrivent sont uniquement le fruit du hasard, des coïncidences, ou est-ce qu'on provoque pas soi-même les choses, quoi?
Puisqu'on est sur le mode thriller, est-ce que vous aviez des modèles en réalisant ce film?
J'ai plein de modèles. À chaque fois que je réalise un film, je regarde des films et je regarde toujours les mêmes. Je regarde toujours les mêmes metteurs en scène, ceux que j'aime, ceux qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Même si c'est des films qui datent, c'est ceux qui m'inspirent toujours autant.
C'est-à-dire?
Les films de Sidney Lumet, les films de Woody Allen, de Michael Mann, de Coppola, de Scorsese. Ceux qui m'ont donné envie à moi de faire du cinéma.
Alors ce film-là, vous l'avez co-scénarisé avec Yael Langman et vous avez souhaité qu'elle soit votre invitée dans le journal Inattendu. Elle est en direct avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour Nathalie, bonjour Yvan.
Bonjour Yael.
Alors bonjour. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? Comment est-ce qu'on écrit un scénario à quatre mains?
Yvan, tu veux commencer?
Non, tu es là, je vais te laisser parler.
Alors déjà, ce scénario, c'était, je crois, le quatrième qu'on écrivait ensemble avec Yvan. Donc, il peut dire qu'on se connaît plutôt bien. C'est Yvan qui est arrivé avec ce pitch qui lui plaisait énormément et qui est arrivé avec, comme il le disait il y a quelques minutes, son envie de cinéma, son envie de thriller. Et donc, ce qui était génial, c'est que grâce à Yvan, moi, j'ai pu découvrir ou redécouvrir des films assez géniaux. Avec une très très belle cinématographie. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a énormément parlé de ses désirs à lui de mise en scène, de cinéma, d'intensité, de dramaturgie. On a beaucoup parlé de Sidney Lumet. Et bien qu'on ait écrit un drame avec assez peu de comédie, on va dire, on a écrit plutôt un drame tendu, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup marré à écrire ce scénario. C'est assez heureux d'échanges autour du sujet.
Yvan Attal, vous diriez qu'on est plus fort à deux?
Ça c'est sûr. C'est très difficile d'écrire, c'est très solitaire, donc autant être à deux. Et depuis que j'ai rencontré Yael au moment du brio, j'ai jamais pu me passer d'elle ensuite. C'est maintenant que ça va être difficile, parce que maintenant, elle veut plus écrire, alors je vais devoir faire sans elle. Je sais pas comment je vais faire.
C'est vrai, vous vouliez arrêter, Yael Langman?
Non, pas du tout. En fait,
si, tu arrêtes. Et... Si, tu as dit que tu dois arrêter.
Yvan est complètement responsable. En fait, c'est Yvan qui m'a lancé, moi, dans ma carrière de scénariste. La première fois que je suis devenue officiellement scénariste, c'est grâce à Yvan. Et derrière, c'est vrai qu'on ne s'est pas quitté. Et Yvan a un tel amour du cinéma qui est si communicatif que derrière, bah, il m'a donné envie de passer à la mise en scène. Et je suis passée à la mise en scène et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Et de fait, c'est vrai que là, j'ai un petit créneau pour faire mes projets. Et donc, voilà.
Mais tu as bien raison.
C'est magnifique. Ça veut dire qu'Yvan Attal est non seulement un grand acteur et réalisateur, mais aussi un mentor. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas, Yael Langman, d'avoir été en direct avec nous pour nous parler d'un coup de dé. Yvan Attal, quand on a préparé cette émission, on vous a demandé vos choix musicaux et vous avez notamment souhaité écouter ça. Duke Ellington. Pourquoi ?
Mais c'est sublime. Ne me posez pas de questions, écoutez la musique, c'est tout. Non, c'est sublime. À chaque fois que je peux le réécouter, je réécoute. Ah, j'ai même pas envie de parler, écoutez. On peut mettre plus fort.
Quelques notes qui font du bien.
Attendez, c'est maintenant que c'est beau. attendez deux secondes. Encore un peu, hein.
On va être en retard.
Voilà, non, mais c'est là que c'est.
Et ce sera à cause d'Yvan Attal ou
à
grâce.
Grâce à
Duke Ellington. Dans un instant, les titres de 13h dans le journal inattendu.
Le journal inattendu d'Yvan Attal.
Avec Nathalie Renoux sur RTL. RTL.
Il est 13h, passé d'une minute.
Journal inattendu d'Yvan Attal.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renoux.
700 voyageurs coincés sans chauffage pendant près de 7 heures dans un train entre Paris et Clermont-Ferrand à cause d'une panne. Cela s'est passé dans la nuit. Les passagers sont arrivés à destination tôt ce matin. La SNCF promet une compensation de 200% du prix du billet pour les voyageurs. La grogne continue chez les agriculteurs contre des revenus en baisse, contre les normes environnementales ou pour un accès facilité à l'eau. Plusieurs actions en cours ce samedi, notamment le blocage de l'autoroute A64 au sud de Toulouse. Et c'est dans ce contexte de tension que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est attendu dans l'après-midi dans une ferme du Cher. Il sera demain l'invité du grand jury sur RTL à midi. Gabriel Attal dans le Rhône aujourd'hui pour échanger avec 150 Français, des maires, des habitants du département. Objectif affiché par le Premier ministre, nourrir son discours de politique générale qu'il prononcera à la fin du mois. En football, qualification de Lyon hier soir pour les 8e de finale de la Coupe de France. Courte victoire 2-1 contre Bergerac. Quelques matchs à l'affiche aujourd'hui, PSG Orléans notamment, Monaco Rodez ou bien Nantes Laval. La Coupe d'Europe de rugby, 4 clubs français jouent cet après-midi, Bordeaux-Bègles, le Racing 92, le Stade français et Lyon. Et puis, rendez-vous à 15h, la France affronte l'Islande à l'Euro de handball, deuxième match du tour principal. Attention Yvan Attal, la météo, c'est vous qui nous l'a donnée.
Du soleil et des températures bien froides cet après-midi presque partout en France. Seul le bassin méditerranéen, la Normandie et la Bretagne verront le mercure dépasser les 10 degrés. Un ciel donc bien lumineux, même si le soleil sera parfois bien voilé du nord et des Ardennes jusqu'au pays nantais. Il fera 2 degrés à Lille et à Mâcon, 3 degrés à Paris, 5 degrés à Grenoble, 6 à Toulouse, 11 degrés à Montpellier, 12 à Marseille et à Brest.
Voilà, il faut être dans le sud ou en Bretagne.
Mais c'est dingue.
Pour avoir chaud. Mais je crois que ça se réchauffe.
De Marseille à Brest.
Ça se réchauffe après, à partir de demain. Merci Yvan Attal pour cette météo. Allez, comme chaque samedi maintenant, on part en mer.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Et on prend des nouvelles du bateau Triana et de son capitaine Jean Dartuis lancé dans l'Ocean Globe Race. Bonjour et bonne année Jean.
Bonjour à tous et bonne année.
Bah oui, c'est notre première connexion depuis 2024. Alors vous êtes reparti pour une troisième étape. Vous êtes où là actuellement?
Alors on est reparti d'Auckland, donc Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. C'est-à-dire exactement à l'opposé de la Terre pour la France. Au passage, il fait très chaud puisque c'est l'été dans cet océan Pacifique. La troisième étape consiste à rejoindre l'Amérique du Sud, Punta del Este, via le Cap Horn. Donc c'est l'étape vraiment légendaire de la course autour du monde à la voile, sans aucune terre entre la Nouvelle-Zélande et la pointe de l'Amérique du Sud, donc ce fameux Cap Horn.
Est-ce que vous avez une petite appréhension justement à ne pas croiser, à ne pas être proche de la terre ?
Oui, c'est sûr que c'est à la fois il y a beaucoup d'excitation dans tout l'équipage parce que c'est l'étape un peu mythique. Mais il y a toujours un peu d'angoisse, d'inquiétude. Puis c'est l'étape où il y a le moins de terre entre les deux, l'arrivée et le départ. C'est vrai que c'est toujours un peu impressionnant cette étape.
Dans quel état d'esprit est l'équipage ?
Ouais, excellent, parce que d'étape en étape, ben, on a gagné la première, puis la deuxième dans notre classe. Donc on est assez motivé pour continuer ces performances et essayer de confirmer notre placement pour cette troisième étape.
Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne continuation, Jean, et on se dit à la semaine prochaine.
Merci Nathalie, à la semaine prochaine.
Allez, on revient sur Terre. Mathias Luguin nous a rejoint dans le studio. Bonjour Mathias.
Bonjour Nathalie, bonjour Yvan.
Bonjour.
Alors Yvan Attal est partout, au théâtre il y a quelques semaines, à la télévision notamment dès lundi dans la série d'Argent et de Sang qui reprend sur Canal+, au cinéma mercredi dans Un coup de dé, un film que vous réalisez et dans lequel vous jouez Yvan Attal. Mais qu'est-ce que le public retient de tout ça ? Eh bien la réponse, vous êtes allé la chercher dans la rue Mathias.
Absolument, je suis allé demander aux gens ce que votre nom leur évoquait. Alors bon, j'ai peut-être été un petit peu maladroit en omettant de rappeler votre prénom, d'où ces réponses.
Oui, Premier ministre.
Ah, j'ai un doute.
Et le Premier ministre.
Non, mais moi, j'en sais rien.
Le premier ministre. Non, c'est le Premier ministre.
Oui, le Premier ministre.
Ah, c'est le Premier ministre.
Le Premier ministre.
Un Premier ministre nouveau.
Le Premier ministre.
Bon, le coup de l'arroseur arrosé, puisqu'il y en a quand même un qui a foncé vraiment tête la première. On était presque dans le grand jury RTL. Écoute.
Monsieur Attal, c'est le nouveau Premier ministre après le changement qu'il y a eu au gouvernement depuis la semaine dernière.
Ah, là, je ne pouvais plus l'arrêter. Franchement, ça durait tellement longtemps que...
Il avait bien révisé sa fiche.
J'ai pas osé désamorcer la blague à la fin. Parce que forcément, quand on donne toutes les infos, là, il n'y a plus de doute. Vous êtes une figure très familière du cinéma, mais pas que.
Ça, c'est un acteur cinéaste.
J'ai vu un film l'autre jour.
Je crois que c'est un artiste.
Ou un cinéaste, metteur en scène. Il joue une pièce, je crois, aussi, au théâtre.
Un acteur.
Je sais qu'il fait des films, je l'ai déjà vu, je vois à quoi il ressemble.
Et au-delà de ça, désolé d'avance parce que je sais que pour reprendre vos mots, ça vous saoule. Le public vous associe évidemment très souvent à votre belle famille.
C'est le mari de Charlotte Gainsbourg.
Mari de Charlotte Gainsbourg.
Ouais, il a failli avoir un petit lapsus d'ailleurs. Alors, autre chose que l'on sait un petit peu moins, vous avez fait du doublage et vous avez même été la voix française de Tom Cruise. Cette dame a beau ne pas franchement être cinéphile, ça l'a fait réagir.
Ah ouais, d'accord. Oui.
On a bien compris. Va. Visiblement, mission impossible donc de synthétiser votre carrière et la perception que les gens ont de vous, si ce n'est le fait que vous êtes un visage récurrent qu'on aime à retrouver et finalement un artiste comblé. Donc subsiste une question qui intrigue, un mystère. Yvan Attal, je vous en prie, franchement, il nous faut une réponse, une bonne fois pour toutes, au moins pour Marie-Pierre.
Avez-vous un lien de parenté familiale avec le Premier ministre Gabriel Attal ?
C'est mon frère.
Les auditeurs vont se débrouiller avec cette réponse. Merci Mathias Luguin. On l'entend dans les réponses des gens, cinéaste, acteur, metteur en scène, réalisateur. Vous considérez comment avant toute chose ? Acteur ? Réalisateur ?
Non, il n'y a pas une chose avant l'autre, je ne sais pas. Je suis autant acteur que metteur en scène. Enfin, voilà, je n'arrive pas à me définir sans évoquer les deux. Je fais les deux. C'est très bizarre. Enfin, très bizarre, non. J'aime autant les deux. Je ne pourrais pas faire que l'acteur sans faire des films ou inversement. Donc, ça, c'est... je fais du cinéma, quoi, voilà. Et du théâtre,
et
d'ailleurs.
Et du théâtre aussi, puisque oui. Vous étiez il n'y a pas longtemps encore au Théâtre Antoine avec Noémie Lvovsky.
Absolument.
Cette passion-là du jeu, elle est née au cinéma quand vous étiez enfant, que vous passiez des après-midi à Créteil à regarder des films ?
Sûrement. En tout cas, oui. Je ne sais pas comment naît après l'envie réellement de faire ça, mais c'est sûr que depuis tout jeune, j'ai un plaisir énorme à me retrouver devant un écran, à regarder des films. Ça, et c'est toujours là, tout ça passe pas, quoi.
Et quand vous regardez vos films, d'ailleurs, est-ce que le plaisir est le même ou est-ce
non,
que c'est différent ?
Non, c'est très très différent. D'abord, je regarde pas mes films, j'y arrive pas. Ou j'y arrive vraiment un peu par hasard. Là, il y a pas si longtemps, je suis rentré du théâtre et je suis tombé sur Mon chien stupide à la télé. Et j'ai regardé parce que En général, on regarde 2-3 minutes et puis on zappe parce que c'est pas possible. Et celui-là, j'ai regardé, je me suis fait prendre, je me suis marré, puis tout d'un coup, j'ai été ému, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est bien filmé, et puis tout d'un coup, je suis allé au bout du film. Voilà. Et je me suis dit, merde, il était pas mal ce film. Mais il faut effectivement avoir un peu de recul. C'est difficile de regarder ces films, surtout quand on est dedans. C'est pratiquement impossible parce qu'on sait par quoi on est passé. Donc, on regarde pas un
vous
film.
Vous pouvez pas être un spectateur lambda
non,
de vos propres films.
Non, je suis pas un spectateur lambda de mes propres films.
Effectivement. Ce qu'on retient aussi, on l'a entendu chez les gens interrogés, c'est que vous êtes le compagnon de Charlotte Gainsbourg, que vous faites partie de cette illustre famille. Vous avez d'ailleurs souhaité, dans vos choix, écouter du Serge Gainsbourg.
Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous.
On a mis cette chanson.
Vous ne l'aimez pas celle-là ?
Si, si, j'aime beaucoup aussi, mais enfin bon, ça vaut le coup de se
renouveler. C'est ce que vous
voulez ? Non, mais bon, j'ai rien à dire en fait.
Bon, ok, allez, on reste avec le poissonneur des Lilas. Vous avez souvent joué aux côtés de Charlotte, vous avez mis en scène votre fils Ben, la famille, on va en parler dans un instant.
Le journal inattendu d'Yvan Attal
avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu d'Yvan Attal
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Yvan Attal, être le compagnon de Charlotte Gainsbourg, le gendre de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, est-ce que ça a pu être écrasant à un moment donné dans votre carrière où vous débutiez ?
Non, parce que quand j'ai débuté, j'étais pas encore avec Charlotte. Et puis, je suis arrivé dans cette famille que j'ai adorée. Voilà, je peux pas dire que ce... d'abord, je me suis toujours démarqué de ça. On m'a proposé 1000 fois de faire un film sur Gainsbourg avant que Johannes Farr le fasse. J'ai toujours refusé. J'ai toujours fait la différence entre ce nom et le mien, quoi. Voilà.
Et pourtant, on vous appelle des fois Monsieur Gainsbourg.
Ouais, on m'en parle à la radio pendant des heures, etc. Des
vous
fois,
voulez
c'est
que j'arrête,
chiant,
ouais. Hein, c'est ça ?
Non, mais Alors... vous me demandez, je vous dis quoi.
Je vais parler quand même, je vais continuer malgré tout à parler de votre famille, parce que je vais vous parler de votre fils que vous avez mis en scène et qui se lance dans une carrière cinématographique, lui aussi, Ben Attal. Vous lui avez donné des conseils ? Est-ce que ça vous stresse ou au contraire, est-ce que vous êtes fier qu'il se lance dans cette carrière ?
Il fait surtout comme il veut. Moi, j'ai eu envie de travailler avec lui parce que la première fois, je sais qu'il était complètement dingue de ce roman de John Fante, Mon chien stupide, qu'il avait secrètement envie de faire l'acteur. Donc, il y a eu quelque chose d'assez naturel comme ça qui soit dans le film. Et puis, en revanche, quand on a fait ce film, je me suis rendu compte qu'il était vraiment très doué et que j'avais envie de le filmer. Et donc, quand j'ai lu Les choses humaines, il avait l'âge du rôle et j'ai eu très envie de le faire avec lui. Et il a confirmé ses talents. Voilà, donc maintenant, il tourne avec d'autres metteurs en scène. Il a un film qui sort bientôt, d'ailleurs. Mais moi, j'attends le moment où je vais me remettre à travailler avec lui parce que j'en ai très envie.
La famille, c'est une thématique que vous abordez beaucoup dans vos films, finalement, y compris dans Les choses humaines, le rapport entre le fils et sa mère. Dans Un coup de dé, c'est une famille aussi, c'est la famille aussi, puisqu'on voit les enfants grandir. Et puis, ces deux couples d'amis sont des couples qui créent presque famille. Est-ce que c'est une thématique majeure pour vous ?
Moi, je ne l'envisage pas comme ça, comme une thématique majeure, mais je m'en sers beaucoup dans les films, oui. Parce que quand on raconte d'abord des histoires d'amour, il y a forcément une famille autour. On a tous une famille, quoi. Voilà, donc quoi qu'on fasse, c'est notre... surtout à un certain âge. On a des parents, on a des enfants, on a des compagnons. Donc forcément, ça crée un contexte fort dans les films, quoi. Après, c'est des relations que j'aime. Ça veut dire, quand par exemple, souvent je parle de ce film Le Parrain de Coppola, avant d'être un film sur la mafia, c'est un film sur la famille, pour moi.
Effectivement. Et dans le film Un coup de dé, vous jouez avec un homme dont vous dites qu'il pourrait être un frère de cinéma, Guillaume Canet. Vous l'avez choisi en conséquence ?
J'ai choisi Guillaume parce que, effectivement, j'avais envie de travailler avec lui. Et je lui ai donné le scénario en lui disant « Choisis ton rôle ». Et il a choisi celui-là. Et donc, du coup, j'ai joué l'autre. Et peut-être qu'on aurait fait autrement s'il avait décidé autrement. Mais non, effectivement, depuis que j'avais tourné avec lui dans Rock'n'Roll, j'avais envie de recommencer. Et j'avais surtout envie de le filmer. Voilà.
Vous auriez préféré, si vous aviez dû choisir le rôle, vous auriez préféré lui être aussi l'homme
non,
brillant
En fait, je crois que s'il avait choisi mon rôle, j'aurais probablement donné l'autre rôle à un autre acteur. Je crois que si je devais jouer dans ce film, alors on est peut-être aux bons endroits.
D'accord.
Voilà. J'aurais peut-être pas pu jouer son rôle.
Et Guillaume Canet, vous partagez avec lui des choses communes, notamment une femme qui fait du cinéma, une femme célèbre. Lui aussi dit que parfois on l'appelle Monsieur Cotillard. C'est une réplique de son film Rock'n'Roll.
Qui est à mourir de rire. Oui.
Qui est très drôle, effectivement. Est-ce que vous avez discuté de ça ensemble sur le tournage ?
On en discute et on n'en discute pas. Ça veut dire des fois ça nous arrive de faire une blague ou on sait par quoi on passe, quoi. Voilà, on se comprend tous les deux là-dessus.
On va continuer à parler de vos films et de vos engagements aussi. C'est le journal inattendu d'Yvan Attal. À tout de suite.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu d'Yvan Attal.
Avec Nathalie Renoux sur RTL.
Yvan Attal, un coup de dé, votre film sort mercredi au cinéma. Est-ce que vous êtes extrêmement stressé quand vous êtes réalisateur et que votre bébé s'en va vers le public ?
Oui, évidemment, on a envie que le public vienne et que le public aime le film surtout. On l'a fait pour eux, donc après, on sait très bien que il fait froid ou un événement ou quelque chose fait que. Les gens décident de pas aller au cinéma ce mercredi-là, ou voilà. Donc ça, j'espère que cette émission, la bande-annonce et tout ce qu'ils peuvent percevoir du film leur donneront envie d'aller voir le film. Après, bon, voilà.
C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'offres pour les gens. Il y a des plateformes, il y a l'accès à de nombreux films et à de nombreuses séries aussi à la télévision. Est-ce que vous pensez que le cinéma, les salles obscures, ont encore de l'avenir ?
Je pense que les salles obscures, j'espère que les salles obscures ont encore de l'avenir, mais il faudrait que les gens retrouvent le plaisir de voir des films ensemble et au même moment. C'est tout, et en grand surtout. Voilà, maintenant je pense que ce grand écran et cette salle obscure est irremplaçable, mais il semblerait que les gens aient envie de voir des films autrement maintenant. On est dans un nouveau fonctionnement, dans un nouveau monde. On regarde les films sur des petits écrans, un peu n'importe où. On regarde, on s'arrête, on reprend. Voilà, c'est une autre consommation. Mais je pense quand même que le cinéma continuera d'exister.
Alors, il y a le cinéma, puis il y a les séries aussi. Vous faites partie d'une série qui s'appelle D'argent et de sang, dont la diffusion reprend sur Canal+, lundi, sur la taxe carbone et l'arnaque à la taxe carbone. Réaliser une série, la construire, ça ne vous intéresserait pas ?
Oui, j'y travaille d'ailleurs.
Ah, d'accord. Mm-hmm. Sur quel thème ?
Je ne vous dirai pas encore.
Oh mince !
Non, c'est encore.
Je disais qu'on allait peut-être avoir un scoop.
Non, je garde ça pour moi, mais j'y travaille, oui, j'aimerais bien faire une série.
Et le théâtre, vous y étiez il n'y a pas si longtemps avec Noémie Lovski, Vidéo Club. C'est un exercice très différent pour vous ?
Non, c'est pas très différent. Pour moi, c'est la même chose. On joue.
Oui, mais il y a un public quand même.
Il y a un public, on ne s'arrête pas, il n'y a pas...
Et c'est en direct.
Et c'est en direct, et ça dure une heure et demie d'un coup, comme ça, c'est comme un long plan séquence au cinéma. Mais en même temps, c'est le même travail, c'est un plaisir différent, mais réellement, c'est la même chose. On cherche la vérité d'une scène, et d'une... Voilà, et puis on joue surtout, alors Le plaisir est différent parce que effectivement il y a le public et surtout quand c'est une comédie il y a une réaction immédiate du public, mais c'est complémentaire. J'ai besoin du théâtre de temps en temps. Je pourrais pas me dire que je ferais que du cinéma, c'est pas possible.
Parce que ça vous rappelle le contact direct avec le public ?
Oui, et aussi le fait de jouer la même pièce tous les soirs, de dire ce texte aussi souvent fait qu'on se libère et des choses qui viennent. c'est le même travail et en même temps c'est des sensations différentes. C'est comme jouer ou mettre en scène, voilà. Bah, c'est comme jouer au cinéma et jouer au théâtre. Il y a des choses dont on ne peut pas se passer.
Et vous n'avez pas envie de choisir et vous avez bien raison. Exactement. Pour notre plus grand bonheur. La semaine dernière, à votre place, il y avait Alice Taglioni qui était venue présenter la pièce Veldive qu'elle joue justement au Théâtre Antoine. Elle a eu un petit mot pour vous.
Je l'embrasse très fort, il était au théâtre juste avant moi. Je regrette juste qu'on n'ait pas partagé le théâtre un jour ou deux. Lui, il y était à 21h et je l'aime beaucoup, je l'embrasse fort.
Ben moi aussi, je l'embrasse fort, je vais bientôt aller la voir. Je lui dis merde, voilà. Et c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas partagé ce théâtre quelques jours ensemble.
Le milieu, le monde des acteurs est secoué par quelques scandales. Vous vous êtes beaucoup positionné sur l'affaire Depardieu. Vous avez signé une tribune et vous avez persisté malgré la défiance. Et puis certains acteurs d'ailleurs se sont désolidarisés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Je peux réexpliquer pourquoi, ou peut-être il faut le réexpliquer constamment. Je vais le réexpliquer alors. On m'a demandé de signer une tribune. Il y a une dame à la télé qui me fait non. Elle m'a fait signer une pub là dans la télé. Il y a une dame, elle me dit non. J'ai tourné la tête, elle a dit non. Donc j'arrête. J'écoute la dame. C'est un signe. Elle a raison. Il faut arrêter de parler de ça. Elle a raison. Elle a dit non.
Non, mais votre position est intéressante, Yvan Attal, parce que elle tranche.
Ma position, elle est simple.
C'est la défense de la présomption d'innocence.
Exactement, c'est la défense de la présomption d'innocence. C'est pas la défense systématique de Gérard Depardieu, mais de la présomption d'innocence. Et c'est surtout pas contre les femmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que de vouloir s'acharner absolument sur quelqu'un, de le condamner avant qu'il soit condamné. Alors évidemment qu'il y a la parole de ces femmes, etc., etc. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Mais sauf que tout d'un coup, de vouloir retirer tout à quelqu'un avant qu'il soit condamné par la justice, je trouve ça terrible. De plus pouvoir regarder ses films, de déprogrammer les films à la télévision, il y a une espèce de mort, une condamnation sociale qui est pas possible. Voilà. Et quand on entend toutes ces féministes s'acharner, voilà, il n'y a pas d'autre combat à mener, il n'y a pas eu des viols, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas, je n'ai pas entendu les féministes contre le Hamas, encore une fois. Donc, ces féministes un peu en carton qui s'agitent de temps en temps, elles ne s'agitent pas tout le temps. Moi, je défends toutes les femmes, par exemple. Voilà.
Allez, on va terminer en parlant de votre film. Un coup de dé qui sort mercredi au cinéma. Il s'agit d'un thriller. Vous m'avez dit en début de cette émission que tous les styles cinématographiques vous intéressaient, que vous avez envie de tout explorer. Alors j'aurais envie de savoir quel est le prochain genre que vous allez tenter.
Eh bien, je ne sais pas encore. Je tourne autour de 2-3 sujets qui parlent de l'époque quand même. Mais je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Pour l'instant, je fais l'acteur.
La science-fiction, par exemple ?
Ah, j'aimerais pas, je crois. Non, voilà, alors voilà un genre. Voilà un genre qui m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Voilà.
Bon, eh bien, si on ne sait pas ce que vous allez faire, au moins on sait ce que vous n'allez
mais
pas faire.
Mais allez savoir, je peux changer d'avis.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous dans ce journal inattendu.
Et désolé pour mon petit moment d'inattention tout à l'heure.
Non, mais écoutez, ça fait partie du direct. Vous étiez en direct, on le rappelle aux auditeurs. Et on rappelle aussi que votre thriller très réussi, Un coup de dé avec Guillaume Canet, mais aussi Marie-Josée Croze et Mai Wen, sort mercredi au cinéma. Merci à vous d'avoir partagé ce moment à mes côtés. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une très bonne après-midi sur RTL.
Le journal inattendu d'Yvan Attal
avec Nathalie Renaud sur RTL.